Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 12, Le Guide. Sans dire un mot à personne, d'après la recommandation du roi, Quentin Durward se revêtit à la hâte d'une solide cuirasse toute simple, de cuissards et de brassards, et se coiffa d'un bon casque d'acier sans visière. Il y ajouta une élégante casaque en peau de chamois, brodée aux coutures, comme celle que portaient les officiers supérieurs dans les maisons nobles. Ces divers objets lui avaient été apportés dans son appartement par Olivier. Le barbier, avec ses manières patelines et son sourire insinuant, lui apprit que l'on avait posté son oncle en sentinelle pour le mettre dans l'impossibilité de le questionner sur sa mission. Quelques minutes avant minuit, Quentin, selon ses instructions, se rendit dans la seconde cour et se posta sous la tour du dauphin, qui avait été assignée aux dames de croix comme demeure temporaire. Il trouva au lieu du rendez-vous les hommes de sa suite à cheval, avec deux mules chargées de bagages, trois palefrois pour les deux comtesses et une fidèle suivante, et un vigoureux destrier pour le chef de l'expédition. La selle bardée de fer brillait à la pâle lumière de la lune. On n'échangea pas une seule parole. Les hommes se tenaient immobiles sur leurs chevaux. Quentin remarqua avec plaisir qu'ils étaient armés et portaient de longues lances. Ils n'étaient que trois, mais l'un d'eux, avec un fort accent gascon, dit tout bas à Quentin que leur guide les rejoindrait au-delà de Tours. Des lumières brillaient çà et là aux fenêtres de la tour, comme si l'on se hâtait, à l'intérieur, de faire les derniers préparatifs. À la fin, une petite porte s'ouvrit, et Quentin en vit sortir trois femmes, escortées d'un homme enveloppé dans un manteau. Elles montèrent en silence sur les palefrois. L'homme au manteau se plaça à la tête de la petite troupe, donnant le mot de passe aux sentinelles. C'est ainsi qu'ils sortirent de la formidable forteresse. Alors l'homme à pied, qui avait jusque-là servi de guide, s'arrêta et parla tout bas aux deux dames qui étaient en tête. « Que le ciel vous bénisse, sire, » dit une voix qui fit tressaillir le jeune Écossais, « et qu'il vous pardonne si vos desseins sont plus intéressés que vos paroles ne donnent à le croire. Tout ce que je désire, c'est d'être en sûreté sous la protection du bon évêque de Liège. » Au bout d'un quart d'heure de marche, la petite troupe se trouva hors du parc et à peu de distance de la ville de Tours. Malgré l'étrangeté de l'aventure, Quentin promenait des regards de ravissement sur la beauté de ce paysage de Touraine, si différent de ceux de son pays. Il fut arraché à cette contemplation par la voix de l'aînée des deux dames qui demandait à parler au chef de la troupe. Piquant des deux, Quentin rejoignit les voyageuses et Dame Ameline lui fit subir un interrogatoire en règle. Quel était son nom et quel était son rang? Il dit son nom et son rang. Connaissait-il parfaitement le chemin? Il ne pouvait se vanter de le connaître parfaitement, mais on lui avait remis des instructions détaillées, et, à la première halte, il rencontrerait un guide en état de les conduire. En attendant, un cavalier qui venait de les rejoindre servirait de guide. « Et pourquoi, jeune gentilhomme, vous a-t-on choisi pour cette mission ?» demanda la dame. « On me dit que c'est vous qui étiez de garde dans la galerie, où nous avons rencontré la princesse de France. Vous semblez bien jeune et peu expérimenté pour le devoir que vous avez à remplir. De plus, vous n'êtes pas français, car vous parlez la langue du pays comme un étranger. Je suis tenu, madame, d'obéir aux ordres du roi, et je n'ai pas qualité pour les discuter, répondit le jeune soldat. Êtes-vous noble? Je puis l'affirmer sans craindre un démenti, répondit Quentin. Et, dit la plus jeune dame avec un accent de timidité, n'est-ce pas vous que j'ai vu à l'hôtellerie lorsque j'ai été appelée pour servir le roi? Quentin, un peu intimidé lui aussi, répondit affirmativement. Alors, ma cousine, reprit la comtesse Isabelle en s'adressant à l'autre dame, il me semble que nous serons en sûreté sous la garde de ce jeune gentilhomme. Il n'a pas l'air, du moins, d'un homme que l'on oserait charger d'exécuter un dessein perfide et cruel, conçue contre deux femmes sans défense. Sur mon honneur, madame, dit Durward, par la renommée de ma maison, par les os de mes ancêtres, je ne pourrais pas, au prix même de la France et de l'Écosse réunies, me rendre coupable de perfidie ou de cruauté envers vous. Alors Quentin, avec la politesse naturelle d'un homme bien élevé, craignant d'être indiscret, partit en avant et rejoignit le guide, comme pour lui adresser des questions sur la route à suivre. Les dames, cependant, continuèrent leur voyage en silence, jusqu'au moment où le jour commença à poindre. Comme elles étaient à cheval depuis plusieurs heures, Quentin, craignant pour elles un excès de fatigue, demanda avec impatience combien il y avait encore jusqu'à la première halte. Je vous montrerai l'endroit dans une demi-heure, lui répondit le guide. Et c'est alors que vous nous remettrez aux mains d'un autre. Oui, seigneur Archer, répondit l'homme. Depuis longtemps, la lune avait disparu derrière l'horizon, et le ciel à l'est commençait à se teindre de vives couleurs, reflété par la surface d'un petit lac que la troupe côtoyait depuis quelque temps. On commençait à pouvoir distinguer les objets. Quentin, non sans alarme, commençait à se demander s'il n'avait pas dépassé l'endroit où le guide devait les attendre. C'eût été un véritable désastre, gros de conséquences fâcheuses. Il était en train de réfléchir s'il n'enverrait pas en arrière quelqu'un de sa suite pour voir ce qu'il en était, quand il entendit le son d'une corne et regarda du côté d'où provenait ce son. Il vit alors un cavalier qui s'avançait rapidement vers eux. La petite taille du cheval, son ardeur, ses longs poils, sa demi-sauvagerie rappelèrent à Quentin les chevaux de son propre pays. Mais celui-là avait les attaches plus fines et l'allure plus rapide. La tête en particulier, qui dans le poney écossais semble massive et lourde, était fine et bien posée sur le cou de l'animal. Les joues étaient minces, les yeux brillants et les naseaux légèrement ouverts. L'apparence du cavalier était encore plus singulière que celle du cheval. Il avait les pieds passés dans des étriers aussi larges que des pelles, et les courroies de ses étriers étaient si courtes que ses genoux remontaient presque à la hauteur du pommeau de la selle. Malgré cela, il dirigeait sa monture avec une grande adresse. Il portait un petit turban rouge, orné d'une plume fripée retenue par une agrafe d'argent, et une tunique verte, ornée de broderies d'or très voyantes. Il avait un large pantalon bouffant qui lui descendait jusqu'aux genoux. Ce pantalon, d'une couleur blanche, n'était pas d'une propreté irréprochable. Ses jambes bronzées étaient nues, sauf l'entrelacement compliqué de courroies qui assujettissait ses sandales à ses pieds. Dans une ceinture cramoisie, ce singulier cavalier portait un poignard à droite et à gauche un petit cimeterre mauresque recourbé. Au baudrier terni qui lui passait sur l'épaule était suspendue la corne dont il venait de tirer quelques notes. Son visage était bronzé et hâlé. Il avait une barbe peu épaisse, des yeux noirs très perçants, la bouche et le nez d'une forme irréprochable. On l'aurait trouvé beau, sans les boucles incultes de cheveux noirs qui encadraient son visage amaigri et lui donnaient quelque chose de sauvage. C'est encore un bohémien, se dirent les deux dames l'une à l'autre. Sainte Marie, est-ce que le roi va encore placer sa confiance dans ces bandits? Je vais le questionner si vous le désirez, dit Quentin, et m'assurer autant que possible de sa fidélité. Es-tu venu ici pour nous chercher? Lui demanda-t-il d'abord. L'étranger fit un signe d'assentiment. Quelle raison t'amène? Je dois vous conduire au palais de l'homme de Liège. De l'évêque? Le bohémien fit un signe d'assentiment. Quelle preuve peux-tu me donner que nous devons avoir confiance en toi? Pas d'autre que la vieille chanson qui dit « Le page tua le sanglier, le seigneur en eut la gloire ». Elle est suffisante, dit Quentin. Marche devant, mon brave garçon. Nous allons causer plus longuement tout à l'heure. Alors, revenant vers les dames, il leur dit: cet homme, j'en suis convaincu, est bien le guide que nous attendions, car il m'a dit un mot de passe que je crois connu seulement du roi et de moi. Je vais aller causer avec lui et tâcher de découvrir jusqu'à quel point nous pouvons nous fier à lui. Tout le temps que le bohémien marcha seul en avant, il ne fit que se retourner sur sa selle, avec des contorsions de singe, pour voir ce qui se passait derrière lui. Ses allures ne furent pas du goût de Quentin, qui ne se fit pas faute de le lui dire aussitôt qu'il l'eut rejoint. Je crois, l'ami, qu'il vaudrait autant pour nous avoir pour guide un aveugle, si tu regardes la queue de ton cheval et non pas ses oreilles. Quand bien même je serais aveugle, répondit le bohémien, je pourrais vous guider dans n'importe quelle partie du royaume de France et de ceux qui l'entourent. Et pourtant vous n'êtes pas français de naissance. Non, répondit le guide. De quel pays êtes-vous alors? Lui demanda Quentin. D'aucun pays, répondit le guide. Comment? D'aucun pays? Répéta l'Écossais. Non, répondit le bohémien, d'aucun. Je suis un Zingaro, un bohémien, un Égyptien, ou tel autre nom qu'il plaît aux Européens de donner à notre peuple. Mais je n'ai pas de pays. Êtes-vous chrétien? Demanda l'Écossais. Le bohémien fit signe que non. Chien! S'écria Quentin, car l'esprit de tolérance n'était pas celui du catholicisme à cette époque. Est-ce que tu adores Mahoun? Non, répondit laconiquement le guide, avec la plus parfaite indifférence. Il ne paraissait ni surpris ni blessé de la violence de langage de son compagnon. Êtes-vous païen alors? Ou bien qu'êtes-vous? Je n'ai pas de religion, répondit le bohémien. Durward recula de surprise. Il avait bien entendu parler de sarrasins et d'idolâtres, mais jamais il ne lui serait venu à la pensée qu'il pût exister une réunion d'hommes ne pratiquant aucun culte. Revenu de sa surprise, il demanda au guide son nom. Mon vrai nom, répondit le bohémien, n'est connu que de mes frères. Les autres hommes m'appellent Erodin Mograbin, c'est-à-dire Erdin le Maure d'Afrique. Es-tu néanmoins capable d'être fidèle? Reprit Quentin stupéfait. Je le suis. Tous les hommes le sont, dit le bohémien. Mais seras-tu fidèle? M'en croirais-tu davantage si je te le jurais? Répondit Mograbin avec un ricanement. Ta vie est entre mes mains, dit le jeune Écossais. Frappe, et tu verras si j'ai peur de la mort, répondit le bohémien. L'argent ferait-il de toi un guide fidèle? Non, ce serait peine perdue. Je suis déjà lié à toi. Comment? S'écria Durward, plus surpris que jamais. Souviens-toi du châtaignier des bords du Cher. La victime dont tu as coupé la corde était mon frère, Zamet le Maugrabin. Là-dessus, Durward le quitta pour rejoindre le reste de l'escorte, assez mal satisfait du personnage et peu disposé à avoir foi dans ses promesses de reconnaissance. Il sonda alors les deux autres hommes que l'on avait mis sous ses ordres et fut fort désappointé de les trouver stupides et peu capables de lui donner un bon conseil. Tant mieux, se dit-il enfin, sentant croître son courage en proportion des difficultés qui menaçaient de l'assaillir. Cette charmante jeune dame me devra tout. J'ai le droit de compter sur ce que peuvent un bras et une tête. J'ai vu brûler la maison paternelle. J'ai vu mon père et mes frères étendus au milieu des flammes. Je n'ai pas reculé d'un pouce et je me suis battu jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai 2 ans de plus et j'ai à défendre la meilleure et la plus belle cause qui ait jamais enflammé le courage d'un homme. Ils voyagèrent ainsi pendant une semaine, cheminant par les sentiers détournés, à travers des districts peu fréquentés, afin d'éviter les grandes villes. Il ne leur était rien arrivé de remarquable, sinon de rencontrer assez fréquemment des troupes de bohémiens en voyage, des soldats débandés, ou plus exactement des bandits, enfin des patrouilles de la maréchaussée. Mais les bohémiens les respectaient, les voyant sous la conduite d'un des leurs. Les bandits passaient leur chemin, les trouvant en force. La maréchaussée s'inclinait devant un laissez-passer que Louis XI avait remis de sa propre main à Quentin d'Urward. Il faisait halte principalement dans les monastères, dont la plupart étaient tenus, par les règles mêmes de leur institution, de recevoir les pèlerins. Les comtesses de Croix prétextaient généralement les fatigues du voyage pour se retirer immédiatement dans leur chambre. Quentin, leur prétendu maître d'hôtel, arrangeait toutes choses avec une intelligence et une activité qui accroissaient chaque jour leur reconnaissance. C'était dans ces occasions la personne du guide qui causait le plus d'embarras au chef de l'expédition. Païen, vagabond infidèle, adonné aux sciences occultes, comme tous ceux de sa tribu, on considérait généralement Maugrabin comme indigne de l'hospitalité d'un couvent, et ce n'est qu'avec une extrême répugnance qu'on le logeait dans les dépendances extérieures. Ce qui embarrassait Quentin, c'est que d'une part, il fallait éviter de blesser un homme qui connaissait le secret de l'expédition, et de l'autre, le surveiller, sans en avoir l'air, pour l'empêcher d'avoir des communications avec le dehors. Cette surveillance devenait impossible quand on reléguait Maugrabin hors des murs du couvent où les voyageurs faisaient halte, et Durward ne pouvait s'empêcher de penser que le bohémien préférait cet arrangement et s'ingéniait même pour n'être point admis dans l'enceinte sacrée. Au lieu de demeurer tranquille dans le logis qu'on lui assignait, il s'étudiait par sa conversation, ses tours et ses chansons, à dissiper les novices et les jeunes frères et à scandaliser les vieux moines. Trop souvent, il fallait l'autorité et les menaces de Quentin pour réprimer ses plaisanteries intempestives et son intervention auprès des supérieurs pour empêcher ce chien de païen d'être jeté à la porte. Mais vers le 10e ou le 12e jour du voyage, sur le territoire flamand, aux approches de la ville de Namur, tous les efforts de Quentin furent insuffisants pour prévenir les conséquences d'un scandale causé par son guide païen. Le lieu de la scène était un couvent de franciscains réformés dont la règle était très sévère et dont le prieur mourut plus tard en odeur de sainteté. Quentin, comme il fallait s'y attendre, avait eu à vaincre plus de scrupules que jamais pour faire loger son odieux bohémien dans un bâtiment extérieur, habité par un frère laid faisant office de jardinier. Les dames s'étaient retirées dans leur appartement, comme d'habitude. Le prieur, qui se trouvait avoir en Écosse quelques amis et quelques parents éloignés, et qui aimait à entendre les étrangers parler de leur pays, invita Quentin à un petit repas monastique dans sa propre cellule. Comme ce père était un homme intelligent, Quentin en profita pour se faire renseigner sur l'état des affaires dans le pays de Liège. Pourtant, les derniers jours, il avait appris certaines choses qui lui donnaient des appréhensions sur la sécurité des comtesses de Croix. Il doutait même que l'évêque fût en état de les protéger, après qu'elles auraient été conduites saines et sauves jusqu'à sa résidence. Les réponses du père n'étaient pas pour diminuer ses appréhensions. Les gens de Liège, disait-il, avaient eu à plusieurs reprises des disputes avec le duc de Bourgogne, à propos d'impôts et d'immunités. Ils en étaient venus plusieurs fois à une mutinerie ouverte. Le duc en avait conçu une violente colère, et il avait juré par Saint-Georges qu'à la première provocation, il traiterait Liège comme on avait traité autrefois Babylone et Tyr, et en ferait un objet de honte et de reproche pour tout le territoire de Flandre. Et, dit Quentin, d'après ce que l'on rapporte de lui, il est prince à accomplir ses menaces. Aussi probablement les gens de Liège se tiendront pour avertis. C'est à espérer, reprit le prieur, et c'est l'objet des prières de toutes les personnes pieuses du pays. Le bon évêque de Liège travaille nuit et jour à maintenir la paix, comme il convient à un serviteur de l'hôtel. Mais les gens de Liège sont poussés sous la main à leur fréquente révolte par des hommes qui prétendent, à tort je l'espère, avoir derrière eux notre roi très chrétien. Et puis il y a dans le pays un homme de bonne naissance qui a la réputation d'un bon homme de guerre. Mais pour le reste, c'est ainsi dire, lapis offensionis et petra scandali pour les pays de Bourgogne et de Flandre. Il s'appelle Guillaume de la Marck. Le sanglier des Ardennes? Un vrai sanglier, mon fils, reprit le prieur, et il est toujours prêt à piétiner les gens et à les déchirer de ses défenses. Ce qui m'étonne, dit Quentin, c'est que le duc de Bourgogne, un prince si fort et si puissant, ne donne pas la chasse à ce sanglier, dont j'ai si souvent entendu parler. Hélas, mon fils, repartit le prieur, Le duc de Bourgogne est présentement à Péronne, assemblant le banc et l'arrière-banc de ses fidèles pour faire la guerre à la France. Et pendant que le ciel sème la discorde entre deux grands princes, le pays est en proie à des oppresseurs d'ordre inférieur. Mais le duc prend mal son temps pour négliger ses plaies intérieures, car Guillaume de la Marck entretient depuis quelque temps des communications à ciel ouvert avec Rousselaire et Pavillon, les deux chefs des mécontents de Liège, et très probablement il les poussera d'ici peu à quelque entreprise désespérée. Mais, mon bon père, dit Quentin, est-ce que l'évêque de Liège n'est pas assez puissant pour étouffer ces germes de révolte? L'évêque, mon enfant, répondit le prieur, a l'épée de Saint-Pierre aussi bien que ses clés. Il a de la puissance comme prince séculier, et de plus la protection de la puissante maison de Bourgogne. Il a encore l'autorité spirituelle comme prélat, avec une force raisonnable de bons soldats et d'hommes d'armes pour soutenir sa double dignité. Ce Guillaume de la Marck a été élevé dans sa maison, et est son obligé pour de nombreux bienfaits. Mais déjà pendant son séjour chez l'évêque, il a donné carrière à sa violence sanguinaire, et il a été chassé de sa cour pour homicide commis sur la personne d'un des principaux serviteurs de l'évêque. Depuis ce jour-là, il a été son ennemi implacable. Et maintenant, j'ai le regret de le dire, il a ceint ses reins et aiguisé ses cornes pour se ruer sur lui. Vous considérez donc la situation du digne prélat comme dangereuse? Demanda Quentin avec anxiété. Hélas, mon fils, dit le bon franciscain, qui n'est pas en danger en ce moment? Dieu me préserve cependant de dire que le révérend prélat est dans un danger imminent. Il a un trésor bien rempli, des conseillers sûrs et de bons soldats. D'ailleurs, un messager qui a passé ici hier, s'en allant dans l'Est, a dit que le duc de Bourgogne avait dépêché, à la requête de l'évêque, 100 hommes d'armes pour lui venir en aide. C'est une force suffisante pour tenir tête à Guillaume de la Marck, que Dieu confonde. Amen. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du sacristain, qui, d'une voix étranglée par la colère, accusa le bohémien de toutes sortes d'abominations. Il avait enivré les plus jeunes frères, en versant dans leur coupe, au repas du soir, un cordial 10 fois plus énergique que le vin le plus capiteux. Plusieurs des frères avaient succombé à l'ivresse, et l'on pouvait voir à l'éclat de sa figure enflammée et à la difficulté de sa parole que lui-même avait subi l'influence du cordial diabolique. De plus, le bohémien avait chanté des chansons sur les vanités du monde et ses plaisirs impurs. Il avait tourné en dérision le cordon de saint François et ses miracles, et traité les frères de son ordre de sots et de coquins paresseux. Le père prieur écouta quelque temps sans rien dire, comme frappé d'une muette horreur. Quand le sacristain eut tout dit, le prieur descendit dans la cour du couvent et ordonna aux frères laids, sous les peines les plus sévères en cas de désobéissance, de chasser le païen du couvent à coups de fouet et de manche à balai. La sentence fut donc exécutée en présence de Quentin d'Hurouarde, qui, malgré sa contrariété, jugea inutile de se mêler de l'affaire. La discipline administrée aux coupables était, malgré les exhortations du supérieur, plutôt grotesque que terrible. Le bohémien courait çà et là à travers la cour, au milieu des cris et du bruit des coups, dont beaucoup ne l'atteignaient pas, parce que l'on faisait exprès de frapper à côté. Ce qui lui était réellement destiné, il les esquivait à force d'agilité. Quant à ceux qui lui tombaient sur le dos et sur les épaules, il les recevait sans rien dire et sans chercher à se défendre. Le bruit et le désordre étaient au comble, parce que les moines, peu rompu à l'exercice du bâton, frappait les uns sur les autres plus souvent que sur lui. Pour mettre fin à une scène plus scandaleuse qu'édifiante, le prieur fit ouvrir la petite porte, et le bohémien, rapide comme un trait, s'élança au dehors, à la clarté de la lune. Pendant cette scène, un soupçon, que Durward avait déjà conçu précédemment, se présenta à son esprit avec plus de force que jamais. Le matin même, Herdin lui avait promis de se conduire avec plus de décence, et il avait manqué à sa promesse. Il y avait probablement quelque chose là-dessous, car quoi qu'on pût reprocher au bohémien, il ne manquait ni de bon sens ni de retenue, quand il lui plaisait d'en avoir. Peut-être désirait-il communiquer soit avec sa horde, soit avec quelque complice. Empêché pendant le jour par la surveillance continuelle de Quentin, n'avait-il pas eu recours à ce stratagème pour se faire mettre à la porte du couvent? À peine Duroard eut-il conçu ce soupçon qu'il décida de l'éclaircir aussitôt. En conséquence, dès que le bohémien eut pris la clé des champs, Quentin, en deux mots, expliqua au prieur la nécessité où il était d'avoir l'œil sur son guide, et il s'élança à sa poursuite.